Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
C'est votre barre vitaminée chaque après-midi. On essaie d'apporter un peu plus de tonus à l'ensemble de vos placements grâce au marché. On avance au rythme des marchés jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, des marchés qui aujourd'hui hésitent alors qu'on a un chiffre d'inflation en Allemagne à nouveau en léger ralentissement. On attend qu'Ocampo nous livrera le détail de ce chiffre d'inflation allemande dans un instant. Oh, ça n'enthousiasme pas spécifiquement les marchés qui restent en mode hésitant, en mode pause en ce moment. On essaiera de comprendre pourquoi. Et surtout, on vous alertera sur les valeurs à suivre pour les prochaines semaines. Lesquelles pourraient par exemple résister à une éventuelle dégradation de marché? Lesquelles pourraient résister à une éventuelle respiration de marché après 8 semaines de hausse d'affilée? Quelles valeurs donc pourraient traverser d'éventuelles prises de bénéfices? On va poser la question à nos experts. On parlera aussi, tiens, en ces temps d'inflation, des métaux précieux et notamment de l'or. François Delassus sera avec nous tout à l'heure pour parler de l'investissement dans l'or. Vaut-il mieux investir dans l'or via la bourse ou via l'or en physique à travers des lingotins par exemple ou encore des pièces d'or? Des réponses très concrètes, illustrées. Et on parlera aussi de la fiscalité sur l'or. Ce sera à partir de 15h50. Et puis l'investissement responsable, pendant ce temps, poursuit son petit bonhomme de chemin. Il continue de se développer. On vous aide chaque jour à en récolter les fruits. Avec quand même une question. Les fonds article 9, c'est-à-dire les fonds les plus exigeants dans leurs investissements socialement responsables, ces fonds risquent-ils de sous-performer les autres fonds avec notamment des frais de gestion peut-être un peu plus élevés dans ces fonds article 9 que dans les autres? C'est une vraie question qu'on va se poser parce que vous savez que l'industrie financière tente de convaincre que l'investissement responsable peut apporter aussi une surperformance financière. Oui, sauf si les fonds prélèvent des frais plus élevés. Et sur les fonds article 9, il y a une vraie question quant à la politique de frais à venir et au coût de ces fonds. On va en parler. Alain Pitou sera avec nous tout à l'heure. Il est senior advisor sur ces thématiques d'investissement responsable. On est à vos côtés. On joue dans votre camp 3 heures durant jusqu'à 18h. Et tout de suite donc, Nathan Cocampo nous rejoint pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
À la une, le Qatar annonce un accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec la compagnie américaine ConocoPhillips. Un contrat sur 15 ans en pleine crise mondiale de l'énergie. ConocoPhillips va fournir jusqu'à 2 millions de tonnes de GNL par an au terminal gazier en cours de construction dans le nord de l'Allemagne à partir de 2026. L'Allemagne qui voit son inflation reculer à 11,3% en novembre sur un an. Grâce à un ralentissement de la flambée des prix de l'énergie, l'inflation était de 11,6% le mois précédent. Signal encourageant pour la première économie d'Europe. L'inflation qui ralentit aussi en Espagne, elle est même au plus bas depuis janvier. Les prix ont augmenté de 6,8% en novembre contre 7,3% le mois précédent, en raison principalement de la baisse des prix de carburant et de l'électricité. EDF annonce avoir conclu avec 6 banques des financements bancaires supplémentaires pour un montant de 2,2 milliards d'euros. EDF qui connaît des difficultés financières en raison notamment de la limitation des tarifs de l'électricité et des problèmes de production dans ces centrales nucléaires. Et justement, la centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré en Moselle. Décision du gouvernement avec le retour des températures hivernales dans le pays. L'une des dernières centrales du parc français devait normalement fermer définitivement ses portes en mars dernier. Mais avec la crise énergétique, le gouvernement change de stratégie. La banque britannique HSBC va céder ses activités au Canada à la banque canadienne RBC pour 10 milliards de dollars. L'opération sera finalisée fin d'année prochaine et se traduira par un gain avant impôt de 5,7 milliards de dollars dans ses comptes. Et puis Emmanuel Macron se rend ce soir, cette nuit donc, à Washington pour sa deuxième visite d'État. Il espère en profiter pour parler de la guerre en Ukraine et hausser le ton face au protectionnisme américain. Du côté des États-Unis, on fera tout pour éviter la moindre friction pour la première visite d'État organisée par Joe Biden. Nos rendez-vous du jour sur BFM Business. Ce soir, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, sera dans la grande interview d'Edwige Chevrillon ce soir à 19h30.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Nathan. Et bien sûr, on va continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour tout au long de cette fin de journée sur BFM Business. Lui aussi est au cœur de la séance pour le coup. Étienne Braque depuis la tour Euronext, là où ça se passe, la salle de contrôle du CAC 40. Bonjour Étienne, séance d'hésitation.
Bonjour à tous.
À nouveau aujourd'hui.
Oui, beaucoup de confusion aujourd'hui. Après une petite baisse hier, vous avez un CAC 40 qui repart très légèrement de l'avant, plus 0,25%. Il repart à l'assaut des 6700 points, 6681 points, quasiment au plus haut du jour, hein, à 10-15 points près, avec notamment ces informations qui parviennent de la Chine, avec notamment un climat social très tendu après les manifestations, et Xi Jinping qui annonce renforcer la vaccination, notamment pour les seniors. Dans le même temps, vous avait des nouvelles mesures pour aider le secteur immobilier et puis des agences d'État qui avancent des informations par rapport à un assouplissement des règles en termes de tests pour la détection du SARS-CoV-2, du Covid. Et donc par rapport à cela, vous avez toutes les valeurs liées à la Chine qui repartent de l'avant aujourd'hui. Les matières premières, notamment ArcelorMittal, plus 2,6%, plus forte hausse de l'indice. Vous avez Kering qui gagne 1,8%, Total Energy qui prend 1,6% dans le sillage des cours du pétrole qui se reprennent très nettement après s'être détendu ces derniers jours. Baril de Brent qui gagne plus de 2% et qui repasse la barre des 85 $. Et puis le secteur des spiritueux également qui est dépendant de la Chine, à l'image notamment de Pernod Ricard, qui gagne plus de 0,8% à 187 €. À souligner le marché obligataire qui se détend à nouveau en Europe avec un 10 ans français qui perd 7 points de base, 10 ans allemand qui se détend très nettement après les chiffres d'inflation qui sont ressortis meilleurs que prévu, moins 7% pour ce 10 ans allemand qui repasse très largement sous les 2% à 1,93. Donc forcément, c'est un soutien pour le marché action. Et puis, il y a à souligner l'euro-dollar qui se stabilise très légèrement en dessous des 1,04 à 1,0343 cet après-midi.
C'est Pierre Bouchny qui nous accompagne aujourd'hui depuis les bureaux de Kepler. Bonjour Pierre, ravi de vous retrouver. Bon, encore en mode pause, hein, les marchés comme hier d'ailleurs, après s'être envolés, enflammés en 8 semaines, on a pris 20% en gros sur les indices européens. Là, on ne fait plus grand-chose, on est quasi stable sur le CAC. Comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que vous pensez que pour continuer de monter, les marchés vont devoir s'appuyer sur d'autres secteurs que ceux qui ont porté jusqu'ici la hausse, Pierre?
Alors, c'est assez clair, effectivement, on a une accumulation de bonnes nouvelles hein, depuis un mois, que ce soit sur les résultats des entreprises, le prix des matières premières, les indices d'inflation et correctivement les environnementaux. Donc tout ça à portée de marché et donc à ramener dans le giron des investisseurs des secteurs qui étaient très clairement délaissés, notamment sur le secteur de la tech. Hein, on a bien vu que toute anticipation d'une stabilisation de l'environnemental était assez favorable à ce secteur qui avait beaucoup souffert en début d'année. Donc maintenant, il va falloir passer une année 2023 et valider des estimations de résultats qui sont encore relativement optimistes. Hein, en tout cas, c'est notre sentiment. Notamment en Europe où il n'est pas évident que l'ensemble des analystes aient bien capturé l'impact de l'environnement énergie et son coût sur le résultat des entreprises. Donc effectivement, il y a une rotation sectorielle qui devra se faire si le marché doit continuer à monter, et notamment sur le secteur de la tech probablement.
Alors la question qu'on se pose, c'est le marché doit-il continuer de monter ou pas, compte tenu des fondamentaux qui restent quand même assez déprimés? Alors oui, on a une éclaircie sur l'inflation allemande, on y reviendra dans un instant avec notre économiste, mais quand même, on est en pleine phase de ralentissement économique, voire de récession. Est-ce qu'à vos yeux, le marché doit continuer de monter sérieusement, Pierre?
Alors, le marché reste quand même en Europe relativement bon marché. On est sur des niveaux de multiples sur les résultats à 12 mois, donc les PE à 12 mois qui sont toujours sur le bas des références historiques à 11 fois, hein, très décoté par rapport au niveau des valeurs américaines. Donc quelque part, cet environnement que vous avez mentionné, il est pour partie pris en compte par le niveau actuel de valorisation. Maintenant, je pense effectivement que dans ce contexte, la partie un peu manquante du puzzle, en tout cas celle sur laquelle on manque un peu de visibilité, c'est celle des résultats des entreprises. Jusqu'à maintenant, ils ont été bons et le premier trimestre en particulier sera sans doute un point extrêmement important pour les investisseurs pour valider ou affirmer un scénario de résilience des résultats. Donc voilà, donc nous on pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques de baisse et on est encore relativement loin des références. historique en termes de PE 12 mois, puisqu'il manque à peu près 3 points par rapport au niveau actuel.
Bon, plutôt confiant donc chez Kepler sur une éventuelle poursuite à la hausse des marchés.
Raisonnablement confiant,
exactement. Vous citiez le secteur tech, c'est le secteur à privilégier ou vous en voyez d'autres susceptibles de surprendre agréablement en termes de performance financière dans les prochaines semaines ?
Écoutez, globalement, si on est sur un scénario un peu de désinflation, et je pense que globalement, le secteur de la consommation et de la distribution en particulier pourrait être un secteur intéressant. Le secteur bancaire aussi a une configuration qui finalement n'est pas si mauvaise que ça. Alors c'est sûr que, je dirais, l'environnement économique pèse sur le coût du risque, mais à l'inverse, l'environnement taux avec des taux courts qui devraient continuer à monter, des taux longs qui devraient se stabiliser, qui pourraient peut-être resolvabiliser une partie des clients des banques, les banques peuvent être un secteur intéressant pour jouer une éventuelle continuation du rebond des marchés.
Pierre Bouchny avec nous aujourd'hui depuis les bureaux de Kepler. Merci Pierre, on vous retrouvera d'ailleurs aussi à la clôture des marchés. Puis n'oubliez pas ce nouveau rendez-vous qu'on vous propose sur nos réseaux sociaux BFM Business après 18h. Le débrief, le grand débrief de la séance sur nos plateformes que présente désormais Amaury de Tonquédec. Alors c'est simple, si vous nous suivez sur BFM Bourse, le fil Twitter et le fil Facebook pour suivre ce nouveau rendez-vous tout à l'heure après 18h. Donc le grand débrief, Twitter, Facebook de BFM Bourse. Et puis si vous nous suivez à travers BFM Business, ce sera aussi à suivre en direct sur le LinkedIn ou encore la chaîne YouTube de BFM Business. Vous pouvez d'ailleurs, vous qui nous suivez, envoyer vos questions sur notre site BFM Bourse. Si vous avez des interrogations sur vos portefeuilles boursiers, nos experts tenteront désormais chaque soir d'y répondre, d'y apporter un éclairage. Notre site BFM Bourse et notre adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr. Vous pouvez aussi bien sûr vous connecter à notre live stream tout à l'heure donc et réagir, commenter en direct ce nouveau rendez-vous à ne pas raté, qui peut aussi vous apporter un coup d'avance. C'est vrai que c'est important sur les marchés d'avoir un coup d'avance pour faire la différence. Étienne aussi nous y aide. Étienne Braque, depuis la tour Euronext, toujours. Étienne, une autre valeur à suivre aujourd'hui. Alors, on va sortir du seul marché parisien, on va élargir les chakras et regarder ce qui se passe sur le marché britannique et notamment ce titre EasyJet que vous avez repéré, un titre particulièrement entouré aujourd'hui, Étienne.
Entouré à la baisse, puisqu'il perd quasiment 4% après la publication de ses résultats annuels. On est sur un exercice décalé qui comprend la période de septembre 2021 à septembre 2022. 1 milliard de pertes, avec notamment, souvenez-vous, l'hiver dernier qui était encore particulièrement compliqué avec la pandémie. Début d'année compliqué également avec la guerre en Ukraine. Et donc, malgré un gros rebond cet été, 200 millions d'euros de pertes après 1 milliard de pertes il y a un an pour l'exercice 2019-2020. Alors cette perte, elle était attendue, elle est même un petit peu moins forte que s'attendaient les analystes, mais on a un titre qui est en baisse aujourd'hui après des perspectives qui restent particulièrement prudentes, inflation avec également un dollar fort et puis aussi le prix du pétrole qui reste élevé aux alentours des 85 dollars, et donc surtout des perspectives qui peinent à convaincre, avec notamment un environnement au Royaume-Uni, premier marché des EasyJet, qui reste complexe. Et donc suite à cela, vous avez le marché qui vend la nouvelle sur un titre qui est toujours en forte baisse depuis le début de l'année, moins 37% depuis le 1er janvier, EasyJet à Londres.
Wow. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque, depuis la tour Euronext, à tout à l'heure, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi. Séance calme, plus 0,2% en ce moment sur le CAC, 6680 points. Wall Street attendu assez hésitant aussi pour l'ouverture. On sera à New York d'ailleurs, à 15h30. On rejoindra sur place notre correspondante BFM Business, Sabrina Guagliozzi.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
L'événement du jour, il est allemand. On voit le 10 ans allemand d'ailleurs se détendre très très nettement après la publication des chiffres d'inflation. Nouveau ralentissement un peu plus marqué qu'attendu de l'inflation en Allemagne. Florian Hielpo vient nous rejoindre, on va en parler ensemble. Bonjour Florian.
Bonjour.
Bienvenue. Lombard, Audier, IM à nos côtés régulièrement. Donc, nouveau très léger tassement de l'inflation en Allemagne. Un tassement de plus, on a quand même envie de dire. Est-ce que c'est un signe de plus aussi que le pic d'inflation est peut-être désormais passé ?
Je pense qu'il faut distinguer ce qu'on peut lire dans ce chiffre et ce qu'on ne devrait pas lire dans ce chiffre. Ce qu'on peut y lire, c'est à quel point il s'insère bien dans un spectre de chiffres d'inflation qui sont aujourd'hui en recul. L'inflation ne baisse pas, elle est juste un tout petit peu moins forte. On a le chiffre allemand aujourd'hui. Ce matin, on a eu également le chiffre espagnol, qui était beaucoup plus marqué d'ailleurs, mais avec une inflation cœur qui monte à la place de baisser. Donc il faut aussi voir ce qui se cache derrière ce chiffre. Ce qui se cache, c'est ce qu'on peut y lire, c'est un ralentissement de l'impact de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident à lire. Depuis juin, les matières premières ont largement reflué globalement de 10, 12, 15 jusqu'à 20%. D'ailleurs, dans le cas du pétrole, l'Europe est très exposée à ce facteur-là, mais pas que. Il y a une autre source d'inflation qui est l'inflation par la demande. Lorsqu'on regarde encore une fois l'inflation cœur ce matin en Allemagne, on n'en voit pas un ralentissement, on en voit plutôt une progression. On n'a pas assez de chiffres pour l'instant en Allemagne pour juger de cette différence-là pour le moment. Il reste de l'inflation tirée par la demande. C'est l'ennemi de la Banque Centrale Européenne et il est assez invraisemblable qu'un seul print d'inflation, qu'une seule publication puisse amener le paquebot à changer de direction instantanément.
Est-ce qu'on peut néanmoins parier sur l'efficacité, par exemple en Allemagne, du bouclier tarifaire annoncé de 200 milliards d'euros pour participer à tasser cette inflation encore dans les prochains mois?
Alors je serais assez prudent vis-à-vis de l'idée de protéger le consommateur tout en ralentissant l'inflation. Disons que la dépense fiscale de façon générale, même si elle est indirecte comme c'est le cas, dans l'ensemble elle va plutôt encourager la consommation. Et c'est la deuxième pente de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a un petit peu deux objectifs quasi antagoniques, protéger l'énergie et en même temps ralentir la demande. Ces deux éléments-là, aujourd'hui, ils sont un petit peu opposés l'un à l'autre.
Oui, ce bouclier tarifaire est inflationniste à court terme, mais à très long terme peut-être ne l'est-il pas, puisqu'il permettra de limiter les hausses de salaire. Enfin, c'est l'idée. Bon, voilà, à parvenir à conjuguer le court et le moyen long terme. Que fera la Banque Centrale Européenne, en tout cas, dans sa prochaine réunion? Alors, il y a deux débats à la fois. Savoir si ce sera une hausse de taux de 25 ou 50 points de base ou si ce sera une hausse de 75 ou 50 points de base. À votre avis, ce sera 25-50 ou 50-75 le débat? Le vrai débat. Votre débat à vous, dans votre tête, c'est quoi?
Une réponse de Normand, au moins 50.
Donc, plutôt un débat entre 50 et 75 points de base. Donc.
Plutôt. La BCE aujourd'hui, c'est la Fed d'il y a 6 mois. Même en ayant vu l'inflation américaine commencer à refluer, la Fed ne change pourtant pas son fusil d'épaule. Pourquoi est-ce que la BCE, qui n'a pas encore vu l'inflation refluer, le chiffre d'inflation en Allemagne ne permet pas de dire que cette inflation est en train de refluer, pourquoi est-ce qu'elle changerait d'épaule? Enfin, en Europe, la guerre contre l'inflation aura bien lieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Les taux réels en Europe aujourd'hui ne sont pas suffisants pour ramener l'inflation au niveau de la cible de la Banque Centrale. On a des taux réels à 10 ans qui vont être aux alentours de moins 25 points de base, sans être trop technique dans la discussion. On a besoin d'atteindre entre 0,25 et 0,50. Comme aux États-Unis, on a vu des taux réels à 1,5%. C'est la dose d'antibiotiques nécessaire pour pouvoir voir l'inflation refluée. On n'y est pas encore et si vous vous souvenez bien, il y a 2 mois encore, la BCE faisait état d'un risque de désancrage des anticipations d'inflation. C'est la situation à laquelle elle est confrontée. Donc ce n'est pas un print d'inflation, encore une fois, qui va faire tourner ce grand paquebot au quiche.
Oui, il faut pour la BCE absolument parvenir à contenir et piloter les anticipations d'inflation et c'est la grande justification du rythme de hausse de taux actuel en Europe. Est-ce qu'on peut essayer de se rassurer sur l'inflation à venir quand même en regardant la baisse des cours des matières premières?
Bien sûr, encore une fois, l'inflation en Europe, c'est deux choses. C'est l'inflation par les coûts, l'inflation par la demande. L'inflation par les coûts, c'est on pourrait penser que c'est à peu près 50% de l'inflation qui nous préoccupe aujourd'hui. Si celle-ci reflue comme c'est le cas aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle pour les ménages globalement. L'inflation cœur en Europe est entre 5 et 6%. Ça reste tolérable. C'est deux fois la cible. C'est un peu plus de deux fois la cible. Ça reste socialement tolérable. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. C'est en train de refluer. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que une fois cette inflation énergétique plus basse, la BCE sera bien plus confortable dans la conduite de sa politique monétaire et on pourra avoir un ralentissement des hausses.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ces quelques chiffres d'inflation qui émaillent cet après-midi et qui font réagir le marché. On voit l'inflation allemande donc comme ça facialement qui tente à se tasser, mais l'inflation cœur, elle, reste extrêmement, extrêmement dynamique. Bon, le 10 ans allemand se détend quand même. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Florian Hielpo, pour Lombard au DIEM avec nous aujourd'hui. Dans une petite vingtaine de minutes, n'oubliez pas valeur ajoutée, une idée de valeur en plus. Si vous souhaitez compléter vos portefeuilles boursiers, on essaie d'être vraiment les plus pratiques possibles. On soulève le capot des marchés de votre portefeuille pour vous apporter une idée concrète de valeur. On parlera notamment de Rocktool avec les spécialistes de Métis Gestion. Ils sont à l'achat sur ce titre Rocktool et nous apporterons leurs arguments aux alentours de 15h45. Le marché toujours hésitant, le CAC gagne en ce moment. Il est 15h19, 0,2%.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Et chaque jour aussi, on vous parle d'immobilier, puisque les hausses de taux des banquiers centraux ont un impact direct sur les taux de crédit auxquels vous pouvez souscrire si vous souhaitez acquérir de l'immobilier. C'est Cécile Roquelaure qui va nous en parler. Bonjour Cécile, ravie de vous retrouver.
Bonjour Guillaume, stratégiste. Merci, ravie de vous retrouver aussi.
Empruntis, Cécile, on est ravis, on aimerait l'être davantage, voir les taux un peu moins progresser. Pourtant, on est toujours sur une dynamique de progression des taux d'emprunt pour les acquéreurs. Dynamique toujours aussi forte, Cécile.
Ah oui, clairement, on n'a pas de cesse dans l'augmentation des taux de crédit. Si je vous prends l'exemple aujourd'hui du taux sur 20 ans, on est à 2,35% en moyenne. C'est plus du double de ce qu'on a connu en début d'année. Donc, un effet très important de hausse des taux qui joue bien sûr sur la capacité d'emprunt des ménages, puisqu'on va perdre quasiment 10% de capacité d'emprunt, là aussi depuis janvier 2022. C'est une hausse qui se perpétue depuis maintenant le mois de février. Tous les mois, on a droit à notre petite dose de hausse des taux, et même si elle est un peu moins rapide ces derniers mois et depuis l'été parce qu'on joue sous contrainte, on a quand même une hausse qui oscille entre 10 et 20 centimes tous les mois depuis maintenant plus de 8 mois.
Jusqu'où la hausse des taux ira-t-elle et jusqu'à quelle proportion les banques peuvent-elles se permettre de rejeter des dossiers ?
Alors, c'est un vaste sujet parce que vous le savez, Guillaume, en fait, aujourd'hui, les banques, elles sont prises en étau entre le coût de l'argent, vous l'évoquiez à l'instant, les augmentations des taux de la BCE ont un impact sur l'obligation assimilable du Trésor, 10 ans, qui sert de référence aux banques pour fixer leur niveau de taux. Aujourd'hui, on est autour de 2,4%. Ce que nous disent les banques avec lesquelles on travaille, c'est que si elles voulaient répercuter la totalité du coût de l'argent, il faudrait qu'aujourd'hui, elles vendent le crédit sur 20 ans autour de 3,5%. On en était très loin, puisque je vous disais tout à l'heure 2,35%. Donc aujourd'hui, elles perdent de l'argent. Pour celles qui en perdent le plus, entre 15 000 et 25 000 euros sur un dossier de crédit. Et cette perte, elle est liée au taux d'usure dont vous parlez depuis longtemps sur BFM Bourse, puisqu'on a une contrainte. Les banques ne doivent pas dépasser ce taux maximum en matière de financement. Il est seulement à 3,05% aujourd'hui. Si je vous fais un petit coup de rétroviseur, en mars 2015, on avait quasiment les mêmes taux de crédit qu'aujourd'hui, mais le taux d'usure était lui à 4%. Donc, entre la contrainte du taux d'usure et du coût de l'argent, les banques n'ont pas vraiment le choix et n'ont pas les marges de manœuvre dont elles ont besoin. Pour autant, si on continue à ce niveau-là d'OAT, donc pas d'évolution significative du taux, et qu'on a un peu de libération côté du taux d'usure en début d'année, puisque c'est la prochaine révision, on peut vite arriver aux 3%, voire aux 3,5% sans aucune difficulté, parce qu'aujourd'hui, elle devrait déjà y être.
Et du coup, dans quel sens, il n'y a pas trop de débat, mais dans quelle proportion les prix pourraient-ils baisser ? C'est la grande question, parce qu'on voit qu'en bourse, les valeurs cotées, les valeurs de l'immobilier coté ont chuté par rapport à leur plus haut de près de 40%. Dans l'immobilier physique réel, on en est loin, on n'est pas sur une baisse de prix de 40%, très très loin de là. Est-ce que vous pensez qu'il faudra une forte baisse des prix pour s'ajuster à la hausse des taux ?
Alors clairement, la correction, elle va être impérative parce qu'en fait, on est sur un marché de l'offre et de la demande. Donc, quand on va avoir de moins en moins de demandeurs, parce que vous le disiez, quand les banques perdent de l'argent, elles ont besoin de resserrer leurs critères et de prendre le minimum de risque. Donc, elles allouent du financement quand on montre double, voire triple patte blanche. Donc, on a un resserrement des robinets du crédit. Il en reste encore, mais ça reste plus compliqué. Et du coup, moins on va avoir de demandeurs sur le marché de l'immobilier, plus l'offre va être contrainte. On voit des délais qui commencent à s'allonger, et on risque d'avoir un réarbitrage sur les prix. Alors pour l'instant, on est loin d'un réarbitrage à hauteur de la hausse des taux. Mais ce qu'on a calculé, c'est que déjà pour absorber la hausse des taux qu'on a déjà vécue sur un an, pour avoir le même nombre de dossiers finançables, il faudrait une baisse des prix de 5%. Et si on va jusqu'à 3,5%, il faudra 5% de correction supplémentaire sur les prix de l'immobilier. Ça veut dire 10% en moyenne pour arriver à absorber la hausse des taux. Et ce qui est difficile dans cet équilibrage du marché, c'est qu'on sait que malheureusement, il faut du temps pour ces réarbitrages, 12, 18 mois, parfois plus. Et aujourd'hui, la baisse des prix n'est pas réellement enclenchée, même si on a des premiers signes. Il faut imaginer que ça va prendre encore du temps, malheureusement.
C'est ça, ça prendra du temps. Et ces baisses de prix, elles profiteront à ceux dont les dossiers seront financés par les banques, dont les dossiers seront acceptés par les banques. Or, avec les hausses de taux, de moins en moins de dossiers le sont. Du coup, je suis investisseur, je vous écoute comme ça, il est 15h24 sur BFM Business, dans ma voiture, entre deux réunions. Je me dis, plutôt que d'investir dans l'immobilier physique, physique avec les hausses de taux, je serais plutôt tenté d'investir dans la pierre papier, pourquoi pas les SCPI. Est-ce que vous voyez un mouvement croissant, un attrait croissant des SCPI auprès des investisseurs qui, jusqu'ici, pouvaient davantage choisir d'investir dans la pierre directement ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de l'immobilier réel, parce qu'on est en plus dans une période de loi de finances, qu'on attend beaucoup de ce qui va être fait sur le marché, et le gouvernement a lancé un certain nombre de travaux pour réfléchir au logement. Et aujourd'hui, on a besoin d'investisseurs locatifs pour mettre des biens en location et pour que les gens puissent se loger. Donc, il y a beaucoup de questions, mais on voit qu'il y a quand même toujours un intérêt pour la pierre. Et effectivement, il peut y avoir un déport, et on le voit depuis plusieurs années, et puis si on vous écoute, on le sait, sur la pierre papier et la SCPI. Aujourd'hui, ce qui est difficile en SCPI, c'est de trouver un financement, parce qu'on ne va pas forcément pouvoir passer par les circuits de distribution classiques. Heureusement aujourd'hui, on a de nouvelles offres qui viennent en matière de financement de SCPI par des organismes spécialisés qui vont soit procéder à du nantissement de SCPI quand elles sont agréées, et là on a une cinquantaine de SCPI qui sont référencés par ces établissements, ou alors plus classiquement par du prêt hypothécaire, c'est-à-dire qu'on va prendre en gage un bien immobilier plus ou moins libre de tout financement, et on va s'adosser à ça pour octroyer un financement qui va nous permettre du coup de financer des SCPI, qu'elles soient agréées ou non par les banques.
Cécile Roclor pour Empruntis nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup Cécile pour ce coup d'œil aux grandes tendances de l'immobilier pour ceux qui souhaiteraient investir. Il est 15h25, dans 4 minutes 30 on sera à New York. On va rejoindre Sabrina Quagliozzi pour l'ouverture de Wall Street. Priorité au direct, hein, c'est ici que ça se passe. Les premiers instants de cotation du jour sur les marchés américains, on va les vivre ensemble. Et puis n'oubliez pas, après 18h, désormais sur nos réseaux sociaux, notre nouveau rendez-vous, Camory de Tonquédec vous présente, vous propose désormais le débrief de la séance un peu après 18h. Si vous nous suivez à travers notre site BFM Bourse, vous pourrez suivre en live stream sur Twitter et Facebook ce débrief. Et puis si vous nous suivez à travers BFM Business, c'est notre chaîne YouTube qui vous proposera de suivre en direct également Amaury et ce grand débrief tout à l'heure. Également sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser vos questions en direct tout à l'heure en vous connectant au live stream, ou encore d'ores et déjà en nous envoyant vos interrogations sur l'adresse mail de BFM Bourse, bfmbourse@bfmbusiness.fr. On l'a refait. bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et donc, notre expert et Amaury qui l'interrogera tentera de répondre à toutes ces questions que vous allez nous envoyer tout au long de l'après-midi. On est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h et même au-delà, donc désormais sur les plateformes et les réseaux sociaux. Et dans un instant à suivre, l'ouverture de Wall Street. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
15h30, c'est l'heure du réveil aux États-Unis, à New York. Hey, le réveil, vous l'entendez, la cloche qui sonne, l'ouverture de Wall Street en direct. On se retrouve tout de suite donc aux États-Unis, on se projette, on se télétransporte, on va rejoindre sur place Sabrina Quagliozzi, notre correspondante permanente BFM Business. Bonjour Sabrina, comment démarre cette nouvelle séance ?
Bonjour Guillaume. Ah bah, ils ont du mal à se réveiller, hein, ces marchés américains, puisqu'on est très très hésitant sur les toutes premières secondes d'échange des marchés qui avaient terminé hier en forte baisse, avec des replis de plus d'1,5%, en tout cas pour le S&P 500, qui enregistrait sa plus forte baisse en séance en pratiquement 3 semaines, dans le sillage de la situation en Chine. Alors on a eu des nouvelles encourageantes de ce côté-là, ce qui avait porté d'ailleurs à la tendance en Asie. On a tenté en avant-bourse une hausse, mais on a du mal. À l'ouverture, on est sur un indice Dow Jones qui est en repli de 0,18%, 33 789 points. Le S&P 500 quasi inchangé, 3 963 points, un pied en négatif. Le Nasdaq, de son côté, petite hausse, plus 0,1%. Des marchés qui gardent un œil aussi, bien sûr, comme toujours d'ailleurs, hein, sur l'obligataire, avec aujourd'hui une tension du côté du 10 ans américain. Le pétrole également en progression après avoir touché sur la séance d'hier ses plus bas niveaux de l'année dans le sillage de la situation en Chine. Le VIX nervosité avec un indice, un baromètre de la nervosité des investisseurs qui est à 22. On avait bien grimpé hier sur la séance. Donc on ne prend pas trop de risques là pour ce début de séance quasi inchangé sur le S&P 500, le Nasdaq. On attend tout à l'heure la publication d'un indice de confiance, à surveiller dans une demi-heure maintenant, et puis aussi des résultats d'entreprise, le résultat du jour, Hewlett-Packard entreprise, ce sera après la clôture des marchés.
du côté des valeurs, Sabrina, celle qui anime cette séance, vous avez repéré UPS et United Health.
Oui, alors, c'est très très calme hein. Aujourd'hui. On garde un œil sur quelques valeurs, effectivement, avec de l'actualité. Alors, un commentaire d'analyste pour UPS, Deutsche Bank, qui passe de neutre à l'achat sur le spécialiste de la livraison. Le titre UPS en profite avec un gain de 2% ce matin à l'ouverture. $183.34. United Health, dans le secteur de l'assurance santé, de son côté, se montre assez prudent pour 2023 en anticipant un bénéfice inférieur aux attentes de la communauté financière. Du coup, le titre est en retrait de 0,4%, $530.12. Et puis, on garde un œil aussi sur Bilibili, groupe Internet chinois qui est coté ici à Wall Street. Perte moins lourde que prévue sur le trimestre écoulé. Une hausse de 11% de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes et un titre qui s'envole de 18%. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des valeurs chinoises qui a été bien sanctionné hier, on a un joli rebond de ce côté-là. Alibaba, par exemple, prend 5%. JD.com, plus 7%. On notera également la belle performance des valeurs pétrolières avec un baril de brut américain qui repart à la hausse, donc plus 1,7%. Vous avez Exxon qui grimpe d'1,3%. Guillaume, ou encore Chevron qui affiche une hausse d'1,3% également. Et une tendance donc quasi inchangée. On se cherche ce matin. Le Dow Jones, 33 864. Le S&P 500, 3964 points. Et l'indice Nasdaq, petit gain de 0,1%, 11061 points. On se retrouve tout à l'heure, Guillaume, pour voir si on a une tendance un peu plus franche sur ces marchés américains. À tout à l'heure, Guillaume.
À tout à l'heure depuis New York, en direct, Sabrina Kouali Odzi. Vous êtes nos yeux et nos oreilles au cœur de cette séance US. En Europe, pas d'impact hein, de l'ouverture de Wall Street. Le CAC 40 est toujours en hausse, comme avant l'ouverture, de 0,2%. En ce moment, le CAC, 6680 points. En tête, l'énergie et les matières premières. ArcelorMittal gagne 2,9%. Total Energy remonte aussi dans le sillage des cours du pétrole qui rebondissent aujourd'hui. Total Energy gagne 2,1%. Puis on a Eramet dans le secteur minier qui progresse aussi, 3,7%. Aperam, 3%. Bref, vraiment, mines, matériaux, énergie signent les plus fortes hausses. Avec aussi le secteur du luxe, puisqu'on a une nouvelle légère détente obligataire, Kering, qui en profite, plus 1,6%. Plus forte hausse sur ce secteur du luxe. C'est pas tous les jours d'ailleurs que Kering surperforme son secteur. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Franklin Pichard vient de nous rejoindre pour essayer de voir si la hausse des marchés des 8 dernières semaines pourrait se prolonger. Tiens, Franklin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directeur général de Kipling Finance. Il faudra beaucoup plus de bonnes nouvelles pour que la hausse se prolonge ou vous sentez les marchés bien partis pour poursuivre?
Ah, écoutez, 8 semaines de hausse pour des motifs qu'on a pu identifier. Hein. C'est clair, on a eu un alignement des planètes qui nous ont permis peut-être un changement d'attitude et dévoilé par elle-même, par la Fed aux États-Unis. On a eu quelques éléments et puis les publications hein, qui nous ont bien soutenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus aujourd'hui? C'est bien difficile à dire. Le calendrier est à la fois confortable et inconfortable. C'est-à-dire que confortable, pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fin d'année, il y a un petit peu d'habillage, un petit peu de rebond des marchés.
Oui.
Mais on a connu certaines années où le rebond ne démarrait que le 25 décembre, pas le 29 septembre. Donc, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup d'éléments favorables pour poursuivre. En revanche, certains plus raisonnables n'imaginent pas qu'on poursuive véritablement le mouvement de hausse, mais ce serait déjà bien de se maintenir sur ces niveaux-là. Or, la tendance, on voit, hier, le marché baissait à cause de la Chine. Aujourd'hui, il remonte grâce à la Chine ou grâce à d'autres éléments. Mais tout ça, ça tient à pas grand-chose et c'est pas très sérieux, j'ai envie de dire, comme argument pour pouvoir se positionner. Donc, on est véritablement dans une situation très, très mal à l'aise pour pouvoir deviner ce que feront les marchés d'ici la fin de l'année.
On le rappelle parce que c'est hallucinant quand même. Certains des grands indices européens ont récupéré plus de 20% depuis fin septembre, sont repassés en bull market, dont l'Eurostock 50, dont le DAX, le CAC à peu près 20% de hausse également. Est-ce qu'on peut imaginer même les indices européens, pourquoi pas, repasser dans le vert en solde positif sur l'année d'ici au au 31 décembre. Pourquoi pas dans la mesure où, par exemple, le CAC 40 dividende réinvesti ne perd plus que 3%, Franklin.
Oui, c'est tout à fait possible. On en est tellement pas loin qu'aujourd'hui, c'est réalisable. Faut bien que les...
Malgré la guerre en Ukraine, les resserrements monétaires, le ralentissement économique, la Chine qui tousse, on pourrait repasser éventuellement positif sur les marchés. Sur
ça ne nous a pas empêché de rattraper 20%, donc quelques points de plus, pourquoi pas. Ce qu'il faut bien que les investisseurs particuliers réalisent, c'est quand on perd 20, c'est qu'on a fait la moitié du chemin pour revenir sur la position antérieure. Un titre qui vaut 100 et qui perd 20%, il faut qu'il en reprenne 40 pour revenir au même niveau. Donc, véritablement, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, on pourrait, mais je suis très inconfortable avec un marché qui repasserait haussier. Historiquement, on l'a bien vu, l'Europe, peut-être même les États-Unis, entreront en récession en 2023. Comment imaginer qu'après tous les événements que vous venez de citer, on puisse démarrer l'année 2023 comme s'il ne s'était rien passé et aborder l'année 2023 avec toutes sortes de chocs et de bouleversements à attendre, l'inflation entre autres, les banquiers centraux qui vont pas s'endormir, les marges des entreprises qui vont peut-être être impactées par et l'inflation et par la récession. Bref, il va se passer tellement de choses que je trouverais très anormal qu'on efface l'année 2022 d'un revers de la main qui a démarré le 29 septembre et se dire tout va bien, il n'y a pas de problème, c'était une année de consolidation, mais on repart là où je pense que les conditions de marché ne s'y prêtent pas et l'environnement économique encore moins. Donc, j'ai pour moi une situation d'aberration qu'il va falloir régler d'une façon ou d'une autre.
On a quand même quelques bons signes macroéconomiques. L'inflation en Allemagne, le chiffre a été publié tout à l'heure, alors elle reste très puissante. L'inflation sur un an, elle progresse toujours de plus de 11%, mais un peu moins que le mois précédent quand même. Ça ralentit. Il semble que le pic soit légèrement derrière nous, peut-être sur l'Allemagne. On voit le 10 ans allemand pas mal se détendre cet après-midi, Franklin.
Oui, vous avez raison. C'est ce fameux pivot qu'on attend. On l'a eu un petit peu aux États-Unis, on commence à le voir un petit peu en Allemagne, mais souvenez-vous des déclarations de Christine Lagarde il y a quelques jours qui a dit que l'inflation continuait d'être là, qu'elle continuait de pousser et que ça risquait d'être un sujet majeur de l'année 2023 et qu'il ne fallait pas s'attendre pour autant à ce que ni la BCE et peut-être d'autres banquiers centraux lâchent l'affaire.
D'autant que la BCE a prévu en décembre de communiquer sur la réduction à venir du bilan aussi.
Exactement. Donc, il y a un ensemble convergent d'éléments qui font que c'est effectivement peut-être une bonne nouvelle qu'on ait atteint un pivot en Allemagne. C'est pas forcément vrai pour l'ensemble de la zone euro, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant pour pouvoir se dire « Ok, on tourne la page et puis on achète quoi ?» C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui.
Alors, en termes d'allocation, en termes de choix d'investissement, du coup, comment est-ce que vous agissez avec des marchés qui ont remonté de quasiment 20% là en deux mois? On est moins à l'aise pour acheter peut-être aujourd'hui que quand on était au creux de marché. Sur quoi est-ce que vous appuyez le plus? Qu'est-ce que vous renforcez dans vos portefeuilles en ce moment chez Kipling Finance?
Mais écoutez, j'ai envie de dire que comme beaucoup, ce qui va être important, c'est que le cash dans les portefeuilles va rester important. On avait constitué sur la deuxième partie de l'année des réserves de cash. On a eu l'occasion de l'évoquer ici à plusieurs reprises. On ne l'utilise toujours pas. C'est-à-dire qu'on va rester investi en cash encore le temps d'y voir un petit peu plus clair. Derrière ça, on a quelques arbitrages qui s'opèrent et ce sont ceux qui ont quelque part participer à la hausse des marchés. C'est un petit rattrapage des valeurs value, les valeurs énergétiques qui ont été cette tendance et ce moteur des 8 semaines auxquelles on a assisté. Mais il y a encore un véritable potentiel sur ces titres-là. Avoir de l'énergie, ça va être une véritable thématique pour 2023.
Même si les cours de l'énergie ont tendance plutôt à baisser,
vous... Même si les cours ont tendance à baisser, ça risque d'être encore un sujet, compte tenu de l'environnement international et géopolitique, qui restera très prégnant en 2023. On était ce matin avec les analystes de CIC. Ils ont, et c'est un sentiment que je partage, une conviction sur toute cette cet environnement sur les infrastructures qui vont être privilégiées, ces investissements qui vont être faits. Un titre comme Alstom a encore beaucoup de questions autour du devenir, augmentation de capital ou pas, 21% de position short sur le titre Alstom. Il suffit qu'on ait quelques résultats qui continuent de s'améliorer, une situation avec un cash flow qui soit favorable. Alstom est un titre qui bénéficie encore d'un rebond possible. N'oublions pas que l'intégration de Bombardier s'est très bien faite. Finalement, ça commence à porter des fruits. Donc, on peut avoir des thématiques comme ça, les bancaires, les valeurs value, et puis surtout, dans cette période d'incertitude, les valeurs de rendement aujourd'hui redeviennent intéressantes. Elles sont intéressantes parce qu'elles offrent une rémunération qui reste encore un peu supérieure à l'inflation et au taux à l'inflation. Ouais. Et donc,
Pour certaines d'entre elles,
mais surtout aussi, on joue les valeurs américaines, value, et des obligations américaines, où là, pour le coup, des obligations américaines, des bons du trésor américain ou des choses comme ça, sur lesquelles on arrive à avoir du 3-3,5%, et donc on arrive à solidifier notre portefeuille, notre cœur de portefeuille, mais en restant investi toujours sur les valeurs qu'on continue d'être bien, mais qui, je l'avoue, pour le moment, ne réagissent pas. Je pense à des Dassault Systèmes qui, finalement, n'a pas fait grand-chose, n'a pas profité de ces 20% de hausse qu'ont connu les marchés. Et on voit plus généralement que l'ensemble des valeurs technologiques ont, en particulier aux États-Unis et en particulier les GAFAM, ont fortement pénalisé les indices américains.
Et ce qui est frappant, c'est que les GAFAM et les valeurs tech, le Nasdaq, ont sous-performé dans le rebond des marchés depuis deux mois, alors que ce rebond a aussi été alimenté par la détente obligataire. Les GAFAM, la tech, n'en a pas tant profité que cela de la détente obligataire.
N'en a même pas profité du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le rebond des marchés européens, comme le CAC, qui ont pris 20%, on retrouve on est assez corrélé avec le Dow Jones de ce point de vue-là, mais pas du tout le Nasdaq, qui n'a absolument pas profité du rebond des marchés.
Le retour, la revanche du ventre mou du marché, la revanche des vieilles dames, la revanche du Dow Jones.
Ouais, un petit peu, tout à fait.
Sur les indices américains. Dernière question, on parlera dans quelques minutes d'investissement dans les métaux précieux avec François Delassus qui nous rejoindra. On parlera d'investissement dans L'or, c'est une thématique attractive en période d'inflation. On est en pleine période d'inflation. L'or, l'once d'or a bien progressé là depuis quelques mois. Ou vous dites, bon, moyen.
Je dis moyen, et il suffit de regarder la performance depuis le début de l'année. Je ne sais pas si on est repassé positif.
Ouais, mais on a plus 3% sur l'once d'or depuis le premier.
Mais c'est tout à fait récent comme phénomène. On a quand même été dans un environnement assez anxiogène depuis le mois de février, et l'or n'avait pas profité pendant longtemps de ce mouvement-là. C'est quelque chose à la fois très politique, et je vais laisser quelqu'un d'autre en parler beaucoup mieux que moi, mais ce n'est pas une classe d'actifs qu'on continue de privilégier.
Merci beaucoup. Franklin Pichard nous accompagne en direct, le directeur général de Kipling Finance. Merci beaucoup Franklin. Bon retour. Il est 15h45. Les marchés américains sont désormais ouverts depuis un quart d'heure. On est assez indécis sur ces indices US. À Paris, petite hausse à l'instant sur le CAC 40, plus 0,2%, 6683 points. ArcelorMittal toujours en tête de l'indice.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
Chaque jour à cette heure-ci, en effet, une idée de valeur en plus, valeur ajoutée si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles. Mathias Pecker nous accompagne, gérant Small Cap France et président de Métis Gestion. Bonjour Mathias.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes à l'achat aujourd'hui sur le titre Rocktool. Pourquoi investir maintenant dans cette valeur?
Alors oui, aujourd'hui je vous parlais d'une vraie Small Cap française en devenir, Rocktool, qui est basé en Savoie et implanté aux États-Unis et en Asie, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 8,2 millions d'euros en croissance de 27%. Au premier semestre 2022, la croissance s'accélère avec une progression de 41% à 4,1 millions d'euros. Et point important, on note un retour à l'équilibre opérationnel. Alors qu'est-ce que fait Rocktool? Eh bien, elle accompagne les industriels de la cosmétique, de l'automobile, du médical et plus globalement tous les acteurs utilisant le moulage plastique dans leur transition écologique en améliorant l'empreinte carbone des biens produits. Alors en clair, Rocktool permet grâce à sa technologie de chauffage de moules par induction de travailler des matières plus vertueuses issues de résines recyclées avec des épaisseurs de pièces plus fines pour réduire la part du plastique par pièce produite. Elle permet de faire des économies d'énergie en optimisant le procédé de moulage avec des temps de chauffe et de refroidissement plus performants. On voit qu'on est ici au cœur des problématiques énergétiques d'aujourd'hui. Cette technologie, elle permet également d'exploiter la surface du moule pour donner de nouvelles propriétés au plastique et donc réduire, voire éliminer les opérations de finition comme la peinture, diminuant d'autant l'utilisation de solvants et autres polluants. Au global, la technologie de RockTool permet de réduire de 20 à 30% les émissions de CO2 par pièce produite. Alors, pourquoi investir maintenant dans RockTool? Eh bien, on constate une tendance qui s'accélère fortement depuis quelques années. Poussée par l'urgence climatique, des réglementations environnementales plus strictes visant à réduire les émissions de CO2 stimulent la demande de solutions de moulage éco-responsables qui sont en train de passer d'optionnel à obligatoire. C'est ce qui explique que RockTool arrive à convaincre depuis 2 ans des industriels de premier plan comme Estée Lauder, Saint-Gobain, Decathlon ou encore de grands donneurs d'ordre du monde de l'automobile.
Et dans ses derniers communiqués, RockTool indiquait être à la recherche d'un partenaire industriel, Mathias. Est-ce que vous pensez que ça pourrait constituer un catalyseur supplémentaire pour cette valeur en bourse?
Alors oui, un partenariat avec un industriel permettrait à RockTool de passer à l'échelon supérieur plus rapidement et crédibiliserait fortement son ambition de devenir un leader des technologies de moulage éco-responsables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, RockTool développe une autre technologie qui permet d'améliorer fortement le bilan carbone des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le bilan carbone d'un panneau fabriqué en Chine et installé en Europe est désastreux. En effet, la durée de vie de ce panneau solaire ne suffira pas à compenser le CO2 émis pour sa fabrication et son installation. C'est pour répondre à ce problème que RockTool développe en partenariat avec le CEA une nouvelle génération de panneaux solaires sans verre, fabriqués en France et 100% recyclables. Compte tenu de ces éléments que nous avons évoqués précédemment et du contexte économique et réglementaire qui est bien favorable, on a un objectif de cours à 12 mois de 6 euros sur RockTool, ce qui, au regard de la baisse récente du titre, nous donne un potentiel de plus de 60%.
Merci beaucoup de nous avoir accompagné cette valeur RockTool. Alors, on rappelle, c'est vraiment si vous souhaitez diversifier vos portefeuilles, ne jamais tout investir sur une seule valeur. Il faut lisser ses risques et à la fois en choisissant de diversifier le profil de valeurs dans lesquelles on investit et aussi en lissant son calendrier d'investissement. Mathias Pecker nous accompagnait, le président de Métis Gestion. Merci beaucoup. Mathias, valeur ajoutée chaque après-midi. Puis n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous désormais chaque soir après 18h, le débrief de la séance sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et puis aussi sur LinkedIn ou encore YouTube. N'hésitez pas, vous retrouverez ce soir donc Amaury de Tonquédec avec ses experts, son intervenant spécialiste de marché qui pourra d'ailleurs aussi répondre à vos questions. Envoyez-nous, envoyez-lui vos questions, il y répondra, alors en vous connectant bien sûr au live stream ou encore en nous envoyant un mail tout simplement à notre adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr et donc vos questions seront relayées désormais chaque soir après 18h sur nos plateformes dans ce grand débrief que vous propose désormais Amaury juste après l'émission. Le CAC 40, il est 15h50, le CAC 40 hésite toujours autant, on progresse néanmoins un petit peu en ce moment de 0,27%, 6683 points.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
L'or, c'est aussi de l'argent l'or. Est-il encore temps d'investir dans l'or ? François de Lassus vient de nous rejoindre, bonjour.
Bonjour, comment
allez-vous ? Ça va et vous ?
Très bien, merci.
Consultant pour Or en Cash. Alors l'or a un peu progressé, c'est vrai, depuis quelques semaines. Plus de 1 700 $ l'once désormais. Comment est-ce que vous expliquez cette remontée de l'or ?
Écoutez, alors deux choses qu'il faut, importantes, parce qu'on est en France, il faut regarder le cours de l'or en euros. C'est beaucoup plus important qu'en dollars. Alors c'est vrai que si vous regardez le cours de l'or depuis le début de l'année, en dollars il a baissé de 4 à 5%. En euros il a progressé de 5%. Donc on est sur un trend positif. Mais maintenant, pour les investisseurs qui vont sur l'or physique d'investissement plus que sur les ETF, ils regardent l'or sur des périodes plus longues, généralement 3 ans. Et si on regarde sur les 3 dernières années, on a une progression de près de 27% en euros et on a une progression de 20% en dollars. Alors pour revenir à votre question posée, pourquoi ça remonte? Tout simplement parce que l'or a été contraint avec la hausse des taux d'intérêt, en particulier américains. Et puis, vous avez vu le 23 novembre, les minutes de la Fed disaient que peut-être que la majorité des membres de la Banque Centrale Américaine serait peut-être en faveur d'une baisse, pas d'une baisse, mais d'un ralentissement de la hausse des taux. Et ce qui fait qu'immédiatement, ça rend plus intéressant l'or. Le dollar a dû baisser un peu, et immédiatement, l'or a monté en dollars.
Le scénario idéal pour une valorisation des cours de l'or, c'est d'avoir d'une part de l'inflation et d'autre part peu de resserrement monétaire, voire pas de resserrement monétaire.
Exactement, parce qu'on a vu, on est sorti d'un monde particulier, d'un environnement de taux bas, où l'or a vraiment performé, en particulier puisque son coût d'opportunité devenait très intéressant par rapport à des produits à taux fixes, des produits à taux. Hein, puisque quand vous avez des taux d'intérêt négatifs, voire zéro, l'or qui ne produit ni coupons ni dividendes devient intéressant. Donc voilà pourquoi. Et maintenant, on est dans un scénario qui est intéressant, pour pas forcément pour tout le monde, mais pour l'or, son rôle de diversification est important, puisque c'est vraiment une valeur de protection contre l'inflation reconnue par tous et depuis longtemps.
Est-ce que pour être convaincu, pour se convaincre du potentiel de l'or pour la suite, il faut regarder le comportement des banquiers centraux? Si l'or offre tant de potentiel que ça, on imagine que les banquiers centraux, qui ne sont pas idiots, en achètent massivement.
Est-ce oui,
que les
alors là, on a justement on a un chiffre qui confirme, si vous voulez, l'intérêt des banques centrales pour l'or, puisqu'au troisième trimestre de cette année, les banques centrales ont acheté plus de 400 tonnes d'or, un record trimestriel depuis 2000. Donc ça, vous voyez, ça vient conforter un petit peu le fait que dans un monde où il y a beaucoup de monnaie, où il y a un monde où il y a de l'inflation, il est important d'avoir des actifs tangibles et des actifs sans risque de contrepartie.
Alors, je ne suis pas banquier central, je suis un investisseur particulier. Pourquoi pas investir dans l'or? Mais comment faire? Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter mensuellement 400 tonnes d'or.
Non.
Mieux vaut investir dans l'or à travers la bourse ou plutôt à travers l'or physique, les pièces, les lingotins, etc.
Ça dépend. Si vous êtes un institutionnel, si vous êtes un investisseur averti, si vous avez un portefeuille boursier et que vous voulez jouer l'or un peu comme une valeur spéculative, ce qui n'est pas la nature de l'or, vous allez rentrer sur les ETF en bourse. Et là, c'est ce que font beaucoup d'institutionnels qui ont d'ailleurs, avec le cours de l'or à la baisse, décollecté un petit peu sur leurs ETF. En revanche, si vous êtes un investisseur particulier, vous allez prendre l'or comme actif de réserve de valeur, comme actif qui protège contre l'inflation. Et là, l'accessibilité sur l'or physique, pièces et lingots, il est possible aujourd'hui, depuis très peu de temps d'ailleurs, de se procurer un lingot à partir de 2,5 grammes, ce qui représente 161 euros aujourd'hui. Donc, l'accès à l'or est assez facile finalement.
Le ticket d'entrée sur l'or physique est en train de baisser.
Oui, exactement.
Mais pas la fiscalité.
Alors la fiscalité...
C'est quand même le gros défaut de l'or physique.
Non.
C'est à la revente...
Alors il y a deux choses.
Oui.
Il y avait ceux qui ont acheté avant 2006 qui ont une fiscalité confiscatoire, qui ils ne peuvent pas choisir la taxation sur la plus-value réelle. Ils se trouvent obligés de payer 11,5% sur le capital, ce qui fait qu'ils ne vendent pas leur or. On a toujours cette histoire de matelas d'or figé. En revanche, pour tous ceux qui ont acheté après 2006, ils ont une taxation sur la plus-value réelle qui est de la même niveau que pour l'immobilier. Et quand vous êtes sur l'or, généralement, la détention de l'or, elle est sur le moyen-long terme. Ce qui fait que cette taxation sur la plus-value réelle, elle diminue au fil des ans, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, elle est exonérée. Donc si vous achetez de l'or physique, vous allez être taxé à 36,2%, plus que la taxation, la flat tax sur les bourses qui est à 30%, mais vous avez une décote de 5% par an au bout de 3 ans.
Mmh. Bon, les pièces d'or, c'est juste pour se faire plaisir? C'est un plaisir de collectionneur ou ça a un intérêt réel?
Alors,
on se demande d'ailleurs peut-être comment les conserver, ces pièces d'or.
Les pièces d'or, c'est facile. Généralement, quand vous les achetez chez un opérateur, elles sont protégées dans des sacs scellés. Parce que, donc, il faut pour la protection. Les pièces ont un intérêt. Disons que le Napoléon, puisque vous pouvez aussi jouer l'effet prime, ce que vous n'avez pas vraiment sur les lingots et les lingotins. L'effet prime, parce que comme les pièces ne sont plus frappées, je parle des pièces style Napoléon justement, vous pouvez avoir, s'il y a une très forte demande, avoir en plus du contenu en or fin, une valuation supérieure grâce à l'offre et la demande.
Alors vous êtes un spécialiste de l'or, il se trouve qu'on reçoit régulièrement désormais dans cette émission des spécialistes des cryptos, et ils nous disent que le Bitcoin c'est le nouvel or, l'or numérique, le Bitcoin est en quantité limitée, il n'y en aura pas plus de 21 millions, comme l'or est en quantité limitée sur cette planète. L'or, bien sûr, présente des qualités de conservation assez incroyables, mais le Bitcoin aussi, on est dans un actif numérique, conservation, pas de problème, et donc ils disent, le Bitcoin, c'est l'or numérique. Qu'est-ce que vous, le spécialiste de l'or traditionnel, vous leur répondez à ces experts crypto là?
Je leur réponds, bonne chance. S'ils veulent rentrer en concurrence avec une valeur refuge qui a fait ses preuves depuis extrêmement longtemps, de façon plus sérieuse, disons que la différence, si vous voulez, c'est que l'or a l'avantage par rapport au Bitcoin, d'abord d'avoir une profondeur de marché beaucoup plus importante, beaucoup plus liquide. L'or a été échangé près de 130 milliards de dollars par jour, 100 fois le volume de transactions sur les Bitcoins. Donc vous avez une liquidité. La production de l'or, elle est extrêmement répandue dans le monde, alors que le minage du Bitcoin est extrêmement centré. Donc, vous avez un problème de volatilité potentielle et de risque que vous ne trouvez pas sur l'or. Ensuite, l'or est considéré par les banques centrales, vous en avez parlé tout à l'heure, et par beaucoup d'investisseurs aujourd'hui institutionnels, comme un vrai actif de diversification. Donc, bonne chance au Bitcoin pour prouver sa capacité à devenir une valeur refuge. Je ne crois pas vraiment. Je crois que c'est une valeur plutôt spéculative. Et puis, on a vu, il y a peu de temps, aussi la faillite de la plateforme FTX.
Oui. Bon, ça, c'est un intermédiaire. C'est autre
chose. Bien sûr.
Mais ça comme fait... quand on investit dans l'or, parfois, méfiez-vous des intermédiaires par lesquels vous passez. Il y a aussi des arnaques dans ce monde.
Peut y avoir eu des arnaques, oui.
François Delassieu avec nous aujourd'hui, consultant pour Or en Cash.
Je vous remercie.
L'avocat de l'or, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'être passé nous voir, à très bientôt. Le CAC 40 toujours en très très légère progression. C'est presque une séance pour rien du côté des indices, plus 0,25% sur le CAC, qui se passe pas grand chose. Wall Street de son côté en petite baisse. On va parler justement des États-Unis dans un instant. Les États-Unis où Emmanuel Macron entame une visite officielle, un voyage d'État de 3 jours. On va en parler avec John Plassard, il sera avec nous. Et puis n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous désormais après 18h sur toutes nos plateformes, sur YouTube, LinkedIn, sur Twitter également, Facebook aussi. Le débrief de la séance, c'est Amaury de Tonquédec qui vous accompagnera désormais après l'émission tous les soirs avec ses experts de marché. Et alors, le grand intérêt de ce rendez-vous, c'est que non seulement on fera le but par but de la séance, mais en plus on vous apportera, Amaury vous apportera un coup d'avance sur la suite et vous pourrez interagir. N'hésitez pas donc tout à l'heure à vous connecter au live stream sur nos différentes plateformes BFM Bourse et BFM Business. Les experts tenteront de vous répondre, de réagir à vos réactions. Ce sera donc chaque soir après 18h désormais. Dans un instant, on va se reconnecter donc à cette séance du jour. On sera depuis la Tour Euronext, là où ça se passe. Étienne Braque avec nous dans 2 minutes après la pause. À tout de suite.